bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Inter. On se dit que même depuis ce matin à l'aube. Leïla Kadoumoudani est là.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Daniel Morin.
Kadou.
Albert Aldou. Tout à l'heure, Tanguy Pastureau et nos invités Sandrine Bonnet et Simon Akarian.
Bravo, bravo.
Le couple dont on va énormément parler aujourd'hui, puisque vous êtes, déjà on est ravis de vous accueillir à nouveau l'une et l'autre. Tout va bien Sandrine ?
Très bien, je vous remercie. Vous,
ça vous va bien cette coupe de cheveux un peu fraîche comme ça, en période de canicule, très
fraîche,
courte C'est court ?
Oui, c'est ça, c'est court.
Oui, c'est court, c'est ça, non, je me dis ça doit être agréable pour vous.
Tout à fait, ça, moi j'ai une vie de 10 ans, c'est parfait.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Ah, c'est ce qu'on me dit en tout cas.
Non, mais c'est pas très délicat. Non, c'est-à-dire ça vous va bien.
Voilà. Merci.
Par rapport à ceux de Simon Abkarian, il y a encore du travail.
Non, mais ça, ah, mais ça va pas. Qu'est-ce qui arrive? Simon, il est toujours...
Moi, je suis pas là pour être beau, hein.
Bonjour. Si. Ça fait plaisir, on est bien reçus.
Et on va parler de vos actus aussi, hein, vous inquiétez pas, on va pas juste parler coiffure, sinon je serai pas là.
Ah bon, moi non plus. T'es sûr?
Certain.
Allons-y, ça se passe ce soir sur France 2. C'est un... Ah, j'ai eu peur pendant deux secondes là, je n'avais plus d'ordinateur.
Tu vas commenter tout comme ça?
Oui, c'est ma vie.
D'accord.
C'est un film qui porte tout dans son titre finalement. Le jour où tout se passe, c'est-à-dire le jour, ce soir-là, ce fameux soir du 13 novembre 2015, soir de l'attentat à Paris du Bataclan, et surtout, j'ai envie de dire, c'est pas dans le titre, les jours d'après. Donc ce soir-là, le jour d'après, c'est le film que vous portez, avec un mélange d'ailleurs d'images d'actualité réelles et de fiction. Il y a quelques images d'information, notamment quand les secours se disposent autour du Bataclan. Mais c'est tout un film qui se passe sur la résilience, la reconstruction finalement de ceux qui ont subi l'attentat au premier titre, c'est-à-dire les victimes, comme ceux qui l'ont subi en écho autour,
ouais,
puisque vous, parce que vous, vos personnages n'étaient absolument pas au Bataclan, l'un comme l'autre, mais à côté, puisque vous êtes une voisine, vous habitez là depuis 30 ans le même appartement qui donne dans la petite ruelle de la sortie des artistes du Bataclan, et vous, Simon Akarian, vous êtes le passant qui passe et qui se trouve là au bon ou au mauvais moment, ça dépendra de la situation. Oui, parce qu'il y a des contrôles de police qui se font, parce qu'il y a des tensions, parce que vous n'avez peut-être pas la tête de l'emploi pour être le gars garé en double fil, normal, au moment des attentats. Et on se dit, bah non, allez-y, circulez. Là, un sentiment d'injustice. Bref, tout ce remue-ménage, ce choc des attentats va bouleverser évidemment la vie des uns et des autres, et au premier titre les victimes dont vous vous occupez dès l'instant vous comprenez ce qui se passe et vous voyez ce qui se passe derrière votre porte cochère, Sandrine, enfin le personnage.
Oui, tout à fait. Cette femme sort de chez elle et puis elle ne comprend pas ce qui se passe, elle voit des gens courir. Il y a un premier personnage qui rentre.
Elle entend les détonations dans la cage d'escalier déjà.
Elle entend effectivement des coups de feu, mais évidemment,
il est
inimaginable de penser que ça puisse être cette affreuse, terrible soirée qui s'est passée. Donc voilà, elle continue à descendre ses escaliers et puis elle ouvre sa porte cochère et un jeune homme se glisse,
s'engouffre dans sa
cour d'immeuble.
Ouais. Et puis elle voit des gens tomber un peu comme des mouches.
Elle voit des gens blessés, des gens qui ont besoin de l'aide, de soins. Et puis, instinctivement, elle récupère ces gens qu'elle fait rentrer dans son Porsche. Et
le personnage de Simon Abkarian passe et vous aide parce que
il y a
aussi quelques charges de muscles et des personnes plus lourdes entre guillemets à porter. Là, il vient vous aider et vous avez les bons réflexes, réflexe du garrot, réflexe de protection, réflexe de dire non, faut pas se mettre là, recule, te mets pas à la fenêtre, et ainsi de suite. On sent l'homme mûr, sûr, très calme, qui prend un peu la situation en main.
C'est-à-dire que le gars en question, il est d'origine afghane. Donc,
il a vécu des situations tendues, quoi.
Ouais, il a un petit peu, malheureusement, je sais pas si on peut s'habituer à ce genre de choses, mais il a l'expérience de ça.
C'est ça.
Mais ce que je trouve beau, moi, dans cette histoire, c'est que c'est quand elle parle d'instinct, Sandrine, c'est tout de suite, sans réfléchir, entre eux et leur acte, il n'y a aucune pensée. C'est-à-dire qu'ils agissent tout de suite, ils font ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'ils peuvent faire, et ils le font.
Il n'y a aucun calcul, il y a juste un réflexe humain.
Tout de suite. Tout de suite, parce que devant des situations comme ça, y a soit on se sauve, ce que je comprends, soit on y va. Et ce que je comprends aussi.
On va pas divulgacher la fin du film, mais c'est vrai que le sous-titre, ça pourrait être « Je pense d'abord aux autres ». C'est un peu ce qui se passe pour votre personnage. C'est d'abord, et c'est ce qui va changer d'ailleurs dans votre vie à partir de ce moment-là, c'est d'abord penser aux autres avant de penser à soi.
Oui, c'est d'abord penser aux autres et je trouve que le film est très beau pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'il parle de solidarité, d'entraide, que ce soit envers les victimes ou les victimes elles-mêmes envers les autres victimes, puisque ces gens vont se retrouver. Et voilà, et ça parle de solidarité. Bien sûr, il y a une histoire d'amour entre le personnage de Simon et mon personnage, mais comment ne pas s'aimer quand on a traversé tous ces effrois, toute cette épouvantable... tous ces moments de vie affreux, quoi.
Et de vouloir aussi s'intéresser aux autres, c'est-à-dire que non contente, entre guillemets, d'avoir ce bon réflexe de sauver les victimes de cet attentat, finalement, vous ne vous connaissez pas au début, vous ne savez même pas quel est le prénom de l'un ou de l'autre, vous avez retenu 2-3 prénoms des victimes qui sont rapidement emportées par les secours dans différents hôpitaux parisiens, mais là aussi démarre une quête, celle d'avoir des nouvelles, celle de se retrouver, et les réseaux sociaux vont vous aider à ça.
Absolument. Et puis il y a aussi cette culpabilité de puisque voilà, c'est un jeune homme qu'on récupère et qu'on essaye de sauver, qui est très très mal en point. Et il y a cette culpabilité de savoir si on a fait justement les bons gestes. Et de savoir ce qui est devenu cette personne.
On va continuer à en parler. C'est une grande soirée qui vous attend ce soir sur France 2 à 21h. Évidemment, la diffusion de ce film ce soir-là et les jours d'après. Et puis, il y aura un débat avec notamment des associations de victimes d'attentats, puisqu'il y a toute la reconstruction et encore aujourd'hui, on imagine des cauchemars, des séquelles un travail qui se fait. Il n'y a pas que les plaies physiques. Il y a aussi le travail de deuil pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille ou des amis, et on en connaît, et il y a aussi tout cet écho, les sursauts que l'on peut avoir, ne serait-ce que quand on entend un verre tomber dans un bar, on se remet immédiatement dans une situation de tension et de nerfs. Il faut préciser quelque chose quand même, si vous êtes d'accord avec moi, c'est un film qui renoue avec cette tension, avec ce drame, mais il n'y a pas d'image d'horreur ou en tout cas d'extrême violence. Tout public peut regarder ce film, et c'est une histoire humaine.
Absolument.
Aussi, dans tous les sens, entre les victimes, vous, entre vous deux, mais aussi vous au sein de votre famille, il y a une histoire entre votre fille et vous, enfin bref, il y a tous les rapports humains sont chamboulés au moment de cet attentat.
Voilà, sont chamboulés, et puis vraiment c'est un film qui parle d'amour et de solidarité, et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai envie de dire que c'est un film qui fait du bien, dans le sens où on voit justement des gens s'aimer, s'aider et du coup s'aimer, et je pense que c'est un film à voir. Et là je prêche pas du tout pour le fait de la, parce que on est bien au-delà d'une promotion de film.
Oui.
En tout cas, moi, j'ai accepté de faire ce film en tant que citoyenne.
Pour les valeurs qu'il portait.
Voilà, tout à fait. Et je pense que ce film est important pour. Alors, il y a des polémiques. Est-ce que ce film a été tourné trop tôt? Bien sûr, c'est délicat pour certaines personnes qui ont vécu ces drames. Et en même temps, je pense que voilà, c'est aussi pour ne pas oublier. Ce qui s'est passé ce soir-là, et puis c'est aussi pour dire réellement que quand on peut faire quelque chose pour les autres, quand on est dans l'urgence de l'humain, eh bien certaines personnes ont le courage de le faire.
Et peu importe d'où on vient, c'est aussi ce qu'incarne le personnage que vous jouez, Simon Abkarian. C'est voilà, un Afghan qui est là et qui n'est pas une nationalité, qui n'est pas une origine à ce moment-là. C'est un homme qui vient au secours d'autres hommes.
Ben, j'ai envie de dire, comment dire, certains disent on tombera tous dans la main du même Dieu, pour ceux qui croient à ça, en tout cas je trouve l'image belle, c'est que quoi qu'on arrive, on arrive seul, on part seul. Et entre-temps, entre les deux départs, l'arrivée et le départ, si on peut se tendre la main, ben, ouais, tant mieux. Ouais. Si on peut se tendre la main, dans des parce que les situations extrêmes, souvent, quand on perd un membre de sa famille, en dehors d'une mort naturelle, on va dire, tout d'un coup, la peur nous reprend et on redevient aimant le temps de l'enterrement. Mm-hmm. En arménien, on dit « va mourir pour que je vienne t'aimer ». Mais
c'est ce que Nagui nous dit souvent. je finis jamais mes phrases. Hein,
et je pense que cet élan, ce film qu'on a fait et que je suis très heureux et j'aime pas le mot fierté, mais là je le dis, je suis fier d'avoir fait. C'est pour participer à continuer cet élan, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les associations, les victimes sont seules. Mm-hmm. C'est peut-être trop tôt d'en parler, mais les associations bataillent toutes seules. Pour plein de choses, j'espère que quelqu'un tout à l'heure viendra en parler, il va le faire.
Oui.
Il va le faire mieux que moi, mais je pense que c'est bien d'en parler parce que ça remet en lumière ce combat, cette douleur-là que nous, on n'entend plus parce que la vie continue. Mm-hmm. Voilà. Mais je pense qu'il y a des choses à régler encore avec les instances politiques qui font pas tout à fait bien leur travail, j'imagine. Donc, voilà.
Tout à l'heure, en effet, Philippe Duperron viendra. Il est président de l'association 13-11-15. 13-11-15, donc vous retrouvez évidemment la date de cet attentat. Association qui a été créée en janvier 2016 par des victimes et proches des victimes des attentats. Philippe Duperron a perdu son fils Thomas au cours de ce concert du Bataclan et il est présent également dans le débat ce soir sur France 2. On en reparle. Évidemment. Mais d'abord, des questions concernant Sandrine Bonner et Simon Abkarian. J'adore votre regard inquiet, Sandrine. Pourquoi, à 12 ans, Sandrine Bonner a dû sortir du salon alors qu'elle regardait avec son papa, la femme d'à côté, le film de François Truffaut ?
Il y avait le feu.
Non. C'est une bonne raison pour sortir.
Un baiser, un amour. Non. C'était quoi, donc ? Une scène particulière du film qui fait que...
Une émotion particulière, oui.
Elle pleurait.
Et donc, pourquoi elle sort ?
Pour se moucher.
Pour se cacher, exactement. Pour pas montrer qu'elle pleure.
Vous ne vouliez pas que votre papa vous voie pleurer devant une scène de ce film ?
Quel film, en plus ?
Oui, d'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai regardé ce film à 12 ans, puisque c'est pas du tout l'âge pour regarder ce genre de film.
Non, oui.
Bon, il n'y a pas de scène, mais bon. Oui, je suis partie dans les toilettes par pudeur, parce que mon père était quelqu'un de très... On ne pleure pas. On doit rester digne et voilà, c'est quelqu'un qui cachait beaucoup ses émotions et du coup j'ai été éduquée comme ça.
Vous l'avez jamais vu pleurer, que ce soit devant
non.
un film ou
jamais.
C'est pourtant bien de pleurer de temps en temps, non, de se lâcher.
Eh bien, j'ai compris ça plus tard, bien sûr. D'abord, je pleure beaucoup dans les films.
C'est vrai. Non, mais quand vous jouez,
j'ai pas
quand
mal
vous
de films dramatiques. Mais
est-ce que vous pleurez en tant que spectatrice d'un film dans lequel vous n'êtes pas ? Est-ce que vous êtes prise tellement par l'histoire que...
Ah oui, ça peut m'arriver, bien sûr.
Et aussi bien parce que vous n'êtes pas dans le film, vous pleurez.
Non, mais, et puis, il y en a certains, oui, et puis il y en a d'autres, je ris, donc pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et pleurer au cinéma, quelque part, c'est un peu moins impudique, parce que pleurer dans la vie, c'est ce qui est le plus difficile, j'ai la sensation, parce que là, on a une fiction, on a une histoire, on peut justifier que c'est l'univers d'un autre qui nous emmène. Ouais. Mmh. Moi,
Non, mais aujourd'hui, je peux pleurer.
Partout.
Enfin, je suis pas une pleurnicheuse, j'espère pas, mais je pense qu'il faut toujours exprimer, quoi qu'il arrive, ses émotions. Mmh. Ça fait du bien. Et,
sans se soucier
c'est
du regard des autres. Ouais.
Voilà, tout à fait.
La dernière fois que Simon Abkarian est venu dans la bande originale, il nous a avoué avoir mis un jour.
À se remettre d'un chagrin d'amour.
6 heures pour faire le trajet Belleville-Léal.
Oui, parce qu'il s'arrêtait dans tous les bars après un chagrin d'amour.
Je peux même pas finir.
Pardon.
Pour noyer votre chagrin d'amour, vous avez mis 6 heures pour faire.
Je préfère mettre 6 heures que 6 ans, quoi.
Pour faire Belleville, ouais, c'est ça.
Tu vas pas être très amoureux, 6 heures, c'est pas grand chose.
Ah, c'était une grande soulerie. Elle a duré une semaine, en fait, la soulerie.
Un marathon,
Et puis j'étais jeune.
Un marathon
Un marathon, exactement. Mais j'étais jeune, c'était l'amour à l'état brut. La personne m'a dit on s'arrête 3 mois. Et j'ai répondu, on va s'arrêter 333 ans si tu veux. Dis-moi que tu me quittes et c'est tout.
Oui, c'est ça.
Et c'est difficile de dire à quelqu'un qu'on le quitte. Donc j'ai pas fait de scène, je suis parti. Il y avait une bouteille de rosé, je me souviens, sur la table, je l'ai fini et j'ai continué. Jusqu'où elle.
Vous avez encore mal à la tête, non ?
Parfois. Non, on parle.
Comment va réagir Claude Sauté quand Sandrine Bonner refuse sa proposition de jouer dans Quelques jours avec moi ?
Il a pleuré.
Ils sont taqués.
Il a pleuré.
Il a carrément pleuré ?
Oui. Mais Claude Sauté pleurait beaucoup.
Lui.
Non, c'est vrai, en plus, il était très...
Émotif ?
Très, très émotif. Très. Moi, déjà, quand il m'a proposé le rôle, il a pleuré. Ah, oui. Quand je l'ai refusé, il a pleuré.
Il y a des moments où il pleure pas, Claude Sauté.
Je l'ai finalement fait, ce rôle, donc il a pleuré à nouveau. Comme dirait ma petite
sœur. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu, c'est pour le faire.
Quand il a vu le film, il a pleuré aussi.
Mais est-ce que...
Oh, sûrement.
Est-ce que vous êtes... vous avez été sensible à ses larmes au point de changer d'avis ?
Non, c'est pas ce qui
c'est
m'a...
Pas ça.
Non, en fait... En fait, j'avais refusé pour des mauvaises raisons. Je me disais, voilà, on me cantonne tout le temps dans des personnages comme ça, un peu trop socialement défavorisés. J'en avais un peu marre, comme je viens de ce milieu-là. Et j'avais peur que ça me donne une étiquette. Mmh. Et puis, mon agent m'a dit, mais tu sais, un film de Claude Sauté, ça ne se refuse pas. C'est vrai que Claude Sauté était un... très grand metteur en scène, et puis j'ai bien fait de faire ce film.
Un metteur en scène, c'est aussi un directeur d'acteurs. C'est vraiment diriger au sens qu'on ne sait pas uniquement mettre en scène, faire un cadre et jouer. C'est aussi donner des indications dans le jeu. Que vous a-t-il apporté ? Est-ce que si c'est le cas, en tout cas, est-ce que vous a-t-il apporté quelque chose ? Et si oui, quoi ?
Moi, je dirais que c'est plutôt accompagné. C'est plus un échange, parce que... Après, oui, il y a des indications techniques, de rythme, de choses comme ça, mais moi, j'ai le sentiment qu'un acteur, ça ne se dirige pas. Dans le sens... non, je le pense vraiment.
D'accord.
Je pense que c'est un accompagnement, c'est un voyage mutuel, et ensemble. Et voilà, c'est échanger sur la couleur de ce qui va se passer, de ce qu'on a envie de donner. Mais il y a des metteurs en scène très directifs. Et j'aime pas beaucoup ça, parce que j'ai l'impression d'être un peu comme... une exécutante et d'être un peu une marionnette, et c'est pas trop mon truc.
Simon,
oui,
vous pensez que... Non, mais que pensez-vous de sa vision du travail d'un réalisateur? Vous pensez que c'est bien d'être dirigé, ou au contraire c'est un accompagnement?
En fait, il faut bien se mettre d'accord sur ce que c'est être dirigé. Si je pense que...
Bah, c'est quoi pour vous?
Par exemple, quand je tourne avec Robert Guédiguian, la direction, elle se fait autour d'un verre et on parle. Parce que c'est une vision de vie, c'est une conception poétique. Après, sur le plateau, ça roule tout seul, parce qu'on sait vers où on va, on sait vers quoi on veut pas aller, on sait vers où. Après, diriger techniquement quelqu'un, si vous le dirigez trop, c'est que vous avez pas choisi la bonne personne.
Ça, si on lui dit parle plus vite, parle plus lentement,
bon, ça, c'est autre
énerve-toi.
Chose. Mais c'est quoi, soit quelqu'un peut plonger.
Non, mais nous, on n'est pas comédien.
Alors, soit quelqu'un peut plonger, soit ouais. Quelqu'un peut, si par exemple on joue quelque chose de tragique, soit la personne a la capacité artistique d'y aller ou pas. Et ça, vous pouvez pas l'inventer. Vous pouvez pas le forcer. Vous pouvez pas l'obliger. Alors, c'est que vous êtes mal choisi à ce moment-là. Mais je pense que accompagner, partager, oui, bien sûr. Mais bon, après, si t'es dans le cadre, t'es dans le cadre. Si t'es pas dans le cadre, il faut rentrer dans le cadre. Mais
vous mettez en scène aussi. Donc, comment vous envisagez ce travail quand vous êtes aussi de l'autre côté ? C'est ça aussi le...
Là, par exemple, je travaille avec des jeunes gens qui sont relativement jeunes, qui sont magnifiques. Et on se parle beaucoup, mais si vous voulez... Moi, je parle de l'endroit, de l'âme, de la personne, de son esprit. J'essaye de juste de faire ça. Parce que bien jouer, tout le monde peut bien jouer. Mais vraiment. C'est-à-dire, là, on est dans une période où les gens... Il y a beaucoup d'actrices, d'acteurs, où les gens parlent vite, parlent bien, parlent juste. Et c'est très bien. Mais de là, que ce soit magnifique et extraordinaire, c'est autre chose.
Ah, il manque quoi ?
Une conscience, une pratique de ça, un désir de ça, un vouloir de ça, pas justement être quelqu'un et faire carrière, c'est arriver à renverser son monde à l'intérieur, à le redessiner, à le redéployer, à aller vers
le vivre.
Un supplément d'âme, quoi.
Je pense, c'est ça qui fera la différence, c'est pour ça que, voilà, il y a des gens qu'on n'oubliera pas, et puis il y a des gens qui veulent côtoyer l'immortalité et qui sont déjà dans l'oubli.
Est-ce que pour vous, sans citer de nom, certains ont fait une longue carrière avec, en étant célèbres et sans être spécialement de bons acteurs ?
Bah, y en a des tonnes, ouais.
On en reçoit toutes les semaines.
Ouais. Non, mais la longévité de la carrière ne veut plus rien dire, ni le nombre d'entrées ne veut plus rien dire. Ravioli Buitoni, ils vendent 20 millions de bouteilles de boîtes de concert par an.
Ça reste de la merde, ouais.
Bah, voilà. Après, moi, je jette pas la pierre. J'ai dit, tu veux faire ça, fais-le, mon gars, et moi, je le fais pas, c'est tout. Après, je suis pas plus pur ou plus machin. C'est des choix qu'on fait dans la vie, je pense que, et c'est-à-dire que Sandrine, je pense qu'elle sera d'accord avec moi. La vie qu'on mène en tant qu'artiste est constituée aussi de ce qu'on n'a pas voulu faire. de ce qui est invisible.
Ouais, le choix, ouais.
Ça s'appelle le choix. Mmh. Après, parfois, on choisit mal. Mais moi, je suis très heureux de faire ce que je suis en train de faire, comme je suis en train de le faire. Et puis, voilà, j'ai 57 ans, hein, j'en ai plus 25.
C'est très jeune, 57 ans, Simon Abkarian.
Oui, oui, bien sûr, jeune. Mais on est apaisé.
Soyons clairs.
On est très jeune, on est très jeune. C'est-à-dire que, non, mais on est jeune. Mais je suis apaisé par rapport à beaucoup de choses, par rapport
bien
à
sûr.
Ça. Voilà, c'est
tout. Justement, tiens, pour parler de Simon, encore plus jeune, dans le quartier de son enfance, il organisait des concours un peu spéciaux dont son papa n'était pas parmi les plus mauvais. Concours de quoi ?
Limbo.
Pétanque ?
Non.
Bras de fer.
Son papa gagnait même au concours. Ni pétanque, ni bras de fer.
Le crachat.
Limbo.
Le plus loin.
Non.
C'est manuel ?
Non.
C'est pas une danse.
Non.
De la poésie, déclamation, quelque chose de l'artistique. De l'impro, de l'ajout verbale, de l'éloquence, des concours d'éloquence. Poèmes.
Exactement, on est un ajout verbale, mais quel genre de ajout verbale ?
C'est des slams.
Non.
Ta mère, elle est tellement.
Chanter des chansons.
Pardon ?
Ta mère, elle est tellement.
Les blagues. Les histoires. Les histoires.
Les battles.
Les clashs.
Oui, mais en disant quoi ? Des batailles de quoi ?
Des mots d'amour.
Non, arrête !
D'insultes.
Oui, joli, Marina.
J'ai pas osé.
Comment ? Il l'a dit, j'ai entendu.
Mais oui, je sais. Mais c'est pour ça que je l'ai pas répété. Regarde, une fois je joue, je suis juste.
Pour une fois.
Des batailles.
Ça t'arrive.
Batailles d'insultes.
Ouais,
des gros
ouais.
mots, quoi.
Ouais, ouais.
C'est des locaux,
mon père, il disait beaucoup de gros mots à la maison.
C'est quoi le principe du match ? Je comprends pas très bien. C'est-à-dire, chacun insulte l'autre.
Chacun dit quelque chose.
Et ceux
qui se marrent le plus, c'est que l'autre a gagné.
À l'applaudissement. C'est au
point de faire craquer l'autre.
C'est au point de faire craquer l'autre, de rire, et on rit tellement qu'on répond plus, quoi.
Voilà.
C'est ok, t'as gagné. Voilà.
C'est par la barbichette, quoi.
Voilà. Les Yougos sont de très bons insulteurs aussi, les Yougos. Ils sont forts pour ça.
Ah, vous pensez que c'est en fonction de la culture du pays que l'on est bon ou mauvais insulteur?
Ah, bah, il y a des pays qui sont particulièrement prédisposés à ça, quoi.
Ouais,
des gens, et puis des classes sociales aussi.
Moi, je pense qu'en Égypte, ils ne doivent pas être mauvais non plus.
Oh là là.
C'est quoi l'imagerie, justement, particulière?
Il ne faut pas toucher à la maman.
Ouais, d'accord.
Dans les concours.
Il y a des règles, ok.
Et il y a des imageries, par exemple, mon grand-père avait sorti une insulte qui disait: je baise le mécanisme de l'heure de la montre qui a donné l'heure de ta naissance.
C'est génial!
Pas mal. Et en même temps, c'est dangereux.
C'est bon.
Ouais. C'était une grande montre.
Ah,
c'est
voilà.
Génial. C'est génial. Mais nous, on avait la même. On s'en était parlé une fois. On avait la même insulte de nos parents. Mon père, quand il s'énervait contre moi, il insultait celui grâce auquel j'ai été mis au monde.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il
s'en voulait, quoi.
Ouais, ben voilà. Tel quel, fils de
ça.
Chien. Voilà,
exactement.
Moi, j'ai le droit à ça.
Ouais, exactement. On n'a pas le même père, mais on a les mêmes références. Revenons donc plus sérieusement à cette soirée de fiction. C'est ce mercredi soir, 21h sur France 2. Ça raconte nos vies, notre société, ce que l'on a tous vécu, parce qu'on sait tous très bien où nous étions le 13 novembre 2015. On sait très bien où on était, à quel moment on a reçu un premier texto d'un ami s'inquiétant. T'es où ? Tu fais quoi ? Mais pourquoi ? Vous vous souvenez, Sandrine, Simon, oui, de ce 13 novembre ?
Moi, je n'étais pas à Paris, j'étais avec Jacques Higelin dans un restaurant en Bretagne. On était là pour un festival. Et
vous avez appris comment les attentats ?
Mais en fait, c'est Jacques qui a reçu un coup de fil, et puis c'est liquéfié. Et puis voilà, il nous a raconté ce qui était en train de se passer.
Ouais, c'est ça,
ça a commencé à peine.
Et vous, Simon ? Comment vous étiez où ?
J'étais chez mon fils qui a 26 ans. Et je suis sorti de chez lui, j'étais dans le 19e.
Dans la musique.
Ouais, il est chanteur contrebassiste. Et je suis descendu rue des Pyrénées, il m'a appelé. J'ai dit: mais qu'est-ce qu'il veut, t'as oublié d'aller avec ma femme, t'as oublié quelque chose à la maison. J'ai répondu: mais papa s'attire au Bataclan. Je lui ai dit: tu restes à la maison, tu bouges pas. Et on a essayé de trouver un taxi, je me souviens, on ne trouvait pas. Donc on a marché. J'étais chez ma mère cette nuit-là. Et je me souviens, on a pris la rue d'Avron. La rue d'Avron, et tout le monde était dehors. Tout le monde était dehors, les yeux hagards.
Il faut préciser, pour ceux qui ne connaissent pas comment Paris est fait, on est un peu dans le même
quartier.
C'est
l'Est parisien. C'est l'Est parisien.
Autour du canal Saint-Martin et tout ça.
C'est l'Est parisien. Et effectivement, dans notre rue, on a un pote, un ami, qui a... sa femme n'est jamais revenue. Quoi. Voilà. Et je pense que... je me souviens, c'était un petit peu... On errait, quoi.
Ouais, sans trop comprendre ce qui se passait, quoi. Non. Comme une espèce de chaos de boue.
Moi, j'ai eu peur que ça s'embrase. Je vous avoue, j'ai eu peur que ça s'embrase. J'ai eu peur que ça s'embrasse.
Oui, oui, oui.
Je crois que c'était aussi le but. Mais j'ai vraiment eu peur que ça prenne feu.
Alors, c'est ce qu'on ressent d'ailleurs dans votre film. C'est-à-dire qu'il y a ce moment de flottement, d'incompréhension, d'inquiétude. Et il y a à la fois les regards de compassion que l'on peut avoir et que l'on avait ressenti dans cette période d'attentat. C'est-à-dire qu'on était comme au moment de l'attentat de Charlie Hebdo d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on regardait son voisin, son proche avec tendresse en se disant finalement que la vie était fragile parce qu'on avait tout ce sentiment-là. Et puis il y a aussi des regards d'inquiétude, de ne pas savoir ce qui se passe. Je ne sais pas comment exprimer.
Il y a la méfiance aussi vis-à-vis de l'autre tout d'un coup. C'est ce qui se passe dans le film.
C'est-à-dire que peu de temps après avoir sauvé des vies, on arrête votre personnage, Simon, dans la rue.
Mais je le comprends. Je le comprends.
Et c'est tellement injuste aussi.
Oui, mais
c'est humain.
C'est complètement humain. Mmh. Et quand on a l'habitude de se faire arrêter pour des raisons comme ça. Il faut savoir.
C'est-à-dire son visage, il faut savoir ses cheveux.
On a le visage qu'on a et on peut pas en changer. Mm-hmm. C'est-à-dire que on peut se teindre les cheveux, mais le visage, ça reste le visage, quoi. Et je pense que c'est normal. Et quand on est tranquille avec soi-même, il peut rien vous arriver.
Oui, alors vous dites c'est normal, ça s'appelle quand même un délit de faciès. On peut pas dire non plus que le délit de faciès soit normal.
Mais
c'est-à-dire d'être uniquement contrôlé.
Non, mais c'est humain, c'est ça que je veux dire.
Je me mets à la place de ceux qui entendent et qui se font régulièrement arrêter.
Moi, je me faisais contrôler 7 fois par jour. J'ai battu mon record, c'était 7 fois par jour quand j'étais minot en France. Et je voulais pas m'y habituer. Mais en même temps, je me disais, bon, voilà, je suis dans un pays qui est pas le mien. Ils font leur job. Moi, je croyais que c'était leur job de faire ça. Vous comprenez?
Oui.
On a fait fi de ce que disait Badinter à l'époque, on a fait fi de tout ça, ça a continué et ça a empiré avec les jours qui viennent parce que c'est devenu, on est en train de bâtir une société sur la peur, sur la défiance de l'autre. Et si on travaille pas, justement, si on parle pas de tout ce qui est en train de se passer, ces moments de solidarité, de fraternité, de soralité, d'amour, de tendresse, on va y retourner. On va y retourner, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas attendre qu'on meure pour s'embrasser, quoi. Mais après, on va me prendre pour un bisounours, j'attends celui qui va me le dire en face, on va rigoler, mais.
Moi aussi, je reste pour voir.
Moi, je crois à ça, je crois à la tendresse, je crois à ça. Après, la police doit faire son travail, mais faut-il arrêter quelqu'un parce qu'il a une couleur de peau qui est dans le collimateur de cette époque-là, qu'il soit arabe, qu'il soit d'origine africaine, qu'il soit noir? Est-ce que c'est juste? Non, ça l'est pas. Non, ça allait pas. Mais cette nuit-là, c'est pour ça que je dis que j'ai peur que ça s'embrasse. Cette nuit-là, tout le monde se regardait en chien de faïence. Le lendemain, le surlendemain.
Oui.
Voilà. C'est
pour ça que je dis qu'il y avait ces deux regards. Il y avait à la fois on se regarde en chien de faïence et à la fois on se regarde en ayant envie de faire des hugs, des câlins, en se disant il y avait ce côté justement je suis à une terrasse. Enfin, il y a le côté je sors, je vis encore, je vais à des concerts. On va pas se laisser envahir par la peur. Et on ressent bien ça dans le film parce qu'on est aussi très très proche des victimes de ces attentats, de la manière dont vos personnages gardent le lien avec ces victimes pour savoir comment ils vont, comment ils se reconstruisent, comment ils avancent, la résilience, enfin tout ça, c'est aussi tout le sujet de ce film, Sandrine Bonner.
Oui, puis je pense que c'est la meilleure défense de continuer à vivre, puisque de l'autre côté, l'arme, c'est de tuer et puis de mourir avec. La pire arme, c'est de ne pas avoir peur de la mort. Et tous ces gens qui se font, qui tirent sur les autres et qui se font sauter avec des dynamites,
des ceintures d'explosifs,
des
ou autre,
ceintures, oui. Voilà, c'est y a rien de plus terrible que de ne pas avoir peur de mourir. Donc je pense que ce qu'il faut qu'on continue à être et à faire, c'est de se battre pour la vie et continuer à vivre. Et d'ailleurs,
c'est le message du film, en tout cas.
C'est le message du film. Oui. Et puis, je salue, en tout cas, et j'ai un vrai respect, une vraie admiration pour ces gens que j'ai rencontrés, donc tout récemment avec Simon. Voilà, ces gens d'associations qui continuent à se battre et pour qui la vie n'est pas facile aujourd'hui et qui, en même temps, continuent à se battre pour la vie et à aimer la vie. Et je trouve ça vraiment très, très fort et j'ai un vrai respect pour ça.
On va continuer de parler de ce film. J'ai oublié de préciser que c'est écrit par Nicolas Mercier, réalisé par Marion Laine. Ce soir sur France 2, ce soir-là et les jours d'après. Et ensuite, le débat organisé par Julien Bugier autour justement de tout ce travail de reconstruction et de résilience avec les associations des victimes des attentats. Maréchal Ganache, ah, c'est un succès cette soirée. Il fallait la faire
oui,
en plus.
Oui,
c'est le rôle du service public.
Oui, c'est le service public. Moi, j'ai chaud, Nagui.
Quel rapport?
J'ai très chaud. Non. Vous, vous supportez cette chaleur effroyable, en digne descendant du pharaon Phimosis Ier, qui régna sur les déserts brûlants de l'Égypte antique, dont vous avez fait vôtre la devise « Moi j'ai ahlar hanale », ce qui peut se traduire par « La canicule, je l'enque ». Mais je réponds à votre question sérieuse, cher Nagui. Ce soir-là et les jours d'après, va être un succès eu égard à la singularité poignante de cette histoire d'amour de deux primo-aidants qui en ont dans le froc, je le signale. Histoire d'amour dont les prémices se nouent dans le sillage sanglant d'une horreur indicible. Noëlène et Karen, admirablement incarnées par Sandrine Bonner, mes hommages madame.
Merci.
Et Simon Abkarian, compliment monsieur, dont Hélène et Karen, disais-je, furent des témoins simplement héroïques. Bref, comme il serait indécent de plaisanter sur un tel sujet, je reviens à la canicule. Et mon cher Nagui, je vais donner un conseil à vos auditeurs qui confortera le succès de ce bouleversant téléfilm. Les températures étant encore en hausse, ce soir il va faire chaud, très chaud, avec t-shirt et maillot, je vous conseille donc... C'est ça le tribute, Chardin. Je vous conseille donc, et c'est même un ordre, oui, de rester claquemuré, cantonné chez vous, dans le noir, en slip, voire sans slip, et d'allumer la télé, le temps de regarder ce soir-là et les jours d'après. Hélas pour moi, chaque fois que sévit la canicule, la chaleur vient, oh paradoxe, me rafraîchir la mémoire. Ce soir-là, c'était en 54 au Tonkin, pendant le terrible siège de Fist Fuck Kim, respecter mon passé.
On va pas avoir le temps,
à l'infirmerie, je fis la connaissance d'une jeune toubib, le médecin-major Susie Wan. Coup de foudre immédiat, comme dans le film, suivi de corps à corps d'autant plus torride que la chaleur faisait bouillir le mercure dans les thermomètres rectaux. Je ne disposais pas, comme aujourd'hui, au vieux gland, d'une baignoire à porte.
Votre EHPAD, hein.
Mais pour me... Oui, vous connaissez.
Mais c'est pour ça.
Donc, j'y suis bien. D'une baignoire à porte, mais pour me... Grosse mortalité en ce moment. D'une baignoire à porte. Il faut dire la vérité. D'une baignoire à porte, mais pour me rafraîchir, Susie Wan me proposa un bain de siège au lotus et au jasmin. Hélas, pour mon joufflu, la cuvette était piégée. Je ne vous ai encore pas raconté, Nagui, l'origine de la terrible mutilation qui aujourd'hui m'empêche de rester assis plus de 3 minutes. Mais justement, comme les 3 minutes viennent de s'écouler, ce sera pour une autre fois.
Merci.
Bonne émission.
La bande originale, notamment de ce film ce soir.
Tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été.
Oui, parce que vous êtes aussi DJ de parking, Simon Carillon, dans le film. DJ de parking,
c'est dans le parking qu'on entend, effectivement.
Le long.
Je te remercie de confirmer que j'ai vu le film, c'est très agréable. Merci Albert. Voici Marie.
Non, mais parce que la chanson française est importante dans le film.
Oui. Très importante, parce que lui aime la chanson française et il ne comprend pas que le personnage de Sandrine Bonner n'aime pas
l'opéra. Elle aime l'opéra.
Italien. C'est bien. Comme ça, au moins, vous voyez, on fait des bons élèves. Vous avez vu? On connaît
tout
par cœur.
Tout à fait.
Cœur.
Ils ont
c'est,
tout bien.
C'est impressionnant, hein.
Bravo.
Et c'est pas fini.
Quand c'est bien, on regarde.
Non. Marina Rollman.
Ah, Marina. Ah, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand on se disait « Bon, ça va bien maintenant, mais c'est quand l'été ?» Et puis là, depuis 3 jours, on se dit « Alors, on a compris, le concept est super, maintenant, est-ce que ce serait possible de trouver un entre-deux, peut-être » Et ça m'a fait songer à toutes ces choses qui vont trop loin et la question complexe de la mesure. Donc voici une petite liste non exhaustive des autres trucs que la chaleur qui devraient savoir quand s'arrêter. Premièrement, les séries, évidemment. La saison de trop, voire les 7 saisons de trop, tu sais. T'aimes bien une série, ça commençait bien, c'était l'histoire d'un petit village troublé par l'arrivée d'un supermarché sur le lieu de l'ancien terrain de foot. Les premières saisons, ça abordait avec pudeur des problématiques subtiles, les détections de relations familiales complexes, de mondialisation, de gentrification. Et puis quelques années plus tard, tu tombes sur un épisode au hasard. Les enfants sont devenus trafiquants d'organes. Les parents ont été recrutés par la DGSE pour devenir les premiers travailleurs du sexe droïde à espionner pour le compte de la Station Spatiale Internationale. Il y a 12 morts à chaque épisode. Il y a 213 personnages principaux, de l'inceste, l'hologramme de Michael Jackson qui joue un prof de Krav Maga survivaliste, qui fait équipe avec le cuisiniste du village pour renverser le nouvel ordre mondial. Et tu te dis, ah, peut-être ils auraient dû savoir s'arrêter.
C'est un bon pitch en tout cas. Dépose.
Oui, toujours. Pareil pour les relations amoureuses. Combien de couples on a vu ou on a vécu qui commençaient en douce chamaillerie. Tu les aimais bien parce qu'ils étaient très drôles, ils étaient un peu vanneurs comme ça. Et aujourd'hui, tu redoutes d'être invité à dîner chez eux. Ils en sont à ce stade de leur couple où ils répondent l'un pour l'autre. Tu sais, et toi, Magali, ça va? Ah bah ouais, ouais, elle va bien. Regarde ce teint de pêche, elle lui réussit vachement de se faire tringler par son prof de yoga. Et toi, t'es là, oh bah 19h22, on va filer, nous, hein, on se lève tôt demain. Ça, vraiment, les gens qui sont des découpes pourries, il faut arrêter. Hein. Vraiment, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Si vous êtes à ce moment dans ce couple où, ne serait-ce que de savoir, même si vous l'entendez pas, juste de savoir que la personne avec qui vous êtes mange des raisins dans une autre pièce, ça vous donne envie de lui crever les yeux, il faut s'arrêter, il faut partir.
C'est un signe, ouais.
C'est terrible, les gens ils sont là, mais il est là, crunch, crunch, ça m'énerve. Bah oui, mais quand tu veux qu'il les bouffe, les raisins, qu'il les aspire, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà. Autre sujet épineux qui demande évidemment de la modération, les substances psychoactives, évidemment. Là, on peut citer l'alcool, mais ça s'applique à tout ce qui modifie un peu le cerveau. Les vacances arrivent, vous faites ce que vous voulez en rave party. Mais quel que soit votre choix, gardez bien ça en tête, l'alcool ou les autres. Il faut s'arrêter quand c'est bien. La grosse erreur avec l'alcool et le reste, c'est de se dire « Ah bah vu que c'est bien, continuons !» Non ! Non ! C'est bien, tu bois un verre d'eau du coup et tu kiffes. Mais on est bête parce qu'on cale l'usage des substances psychoactives sur le sexe. Et le sexe, on s'est dit « Bah c'est bien, alors poussons l'expérience jusqu'au bout, ça risque d'être vraiment très bien à un moment, tu vois. » Malheureusement, l'équivalent de l'orgasme pour l'alcool, c'est évidemment de vomir des cacahuètes rosées sur la nuque d'un inconnu. Lui donner un faux numéro en promettant de rembourser le pressing et aller mourir sur le sol de sa salle de bain en essayant d'absorber le frais. Comme ça, des dalles.
Ça sent vécu.
Voilà, bien sûr, évidemment. Moi, je dis, il faut pas dire non aux drogues. Il faut dire, là, ça va, mais je te redis dans une heure. Et enfin, le truc qu'on pousse toujours aveuglément au-delà de la décence, c'est évidemment les chroniques. J'ai parlé de sexe et de drogue. Si je continue, je vais devoir parler de rock'n'roll et après, on va se fâcher avec Nagui. Alors, il faut savoir s'arrêter. Enfin, jusqu'à demain.
Merci, Marie-Laure. Et non à la drogue, Marina.
Non, à la drogue, avec modération. C'est...
Non plus, rien. Il
faut rencontrer vos dealers avant.
Non.
On est toujours avec un adulte ou un parent.
La provenance du produit.
C'est la fille qui mélange, toutes les, comment on appelle ça, les slogans, tu sais. Non à la drogue, oui, avec modération. Et 5 fruits et légumes.
5 drogues par jour.
La bande originale de Sandrine Bonner à 6 mois, Abkarian, dans vos vies en 1984. Sandrine Bonner, vous écoutiez.
J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps.
Ah, vous connaissez les paroles en plus. Incroyable. Vous avez quelles images en entendant cette chanson? Vous revoyez-vous quelque part ou des vacances en particulier? Je sais pas, c'est quoi?
Ah, je me revois dans ma chambre, face au miroir, en train d'imiter Brigitte Bardot.
Sans rendre compte. C'est vrai?
Oui.
C'était l'icône...
J'étais fan de Bardot, de en tant que chanteuse, en tant qu'actrice.
Quel film, Le Mépris, c'était quoi?
Oh, j'en ai tous. Vu plein.
Ouais, mais
plein.
Elle n'était pas la même, justement, elle n'était pas la même icône, en fonction des films qu'elle a fait.
C'est vrai, elle a fait des très bons films et des très mauvais, mais j'étais fascinée par la femme, par l'actrice, par ce côté frondeur et provocateur. Et je trouve que voilà, dans ces années-là, c'était courageux de faire ça.
Et dans ces années-là...
Oui,
pour
parce
vous...
qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ouais. Vous voulez qu'on en parle ou pas?
Ah. Non.
D'accord.
Enfin, nous ne sommes pas là pour ça, surtout.
Pas mal. Et en 84, vous, Sandrine Bonner, vous êtes à l'affiche de « À nos amours ». Vous êtes récompensée d'un César du meilleur espoir féminin. Et ce que je lis, je n'en reviens pas ensuite. Lors de la cérémonie des Césars, vous portiez un bracelet. Et on sait que pour des cérémonies comme ça, les comédiennes sont parées des plus beaux bijoux qui coûtent une fortune.
Prêtées,
bien ouais. Sûr. Vous le perdez, ce bracelet.
Je ne sais pas si je l'ai perdu ou si on me l'a volé. Ouais. À l'époque, il y avait pas autant de sécurité. Mm-hmm. Et comme j'ai gagné le César, il y a des gens qui m'ont félicité, qui m'ont touché. Donc, est-ce que on me l'a volé? Est-ce qu'il est tombé quand les gens m'ont touché? Je ne sais pas.
Et ce bijou, ce bracelet coûtait 100 000 francs. Et en fait, la réaction de votre agent, ça a été de dire, Sandrine, va y avoir un doute. On va pouvoir penser que tu l'as volé. Donc, il faut le rembourser.
Carrément ?
Sérieux ?
Oui. Comme je venais de la banlieue parisienne et que, voilà, on m'a dit, effectivement, c'est mieux de le rembourser. Sinon, c'est... Enfin, ça va créer une mauvaise image de toi et c'est mieux que tu le rembourses.
On parlait du délit de faciès.
C'est pas tant l'agent, c'est surtout la maison de joaillerie qui aurait dû assurer ce bracelet.
Ce bracelet, oui.
Parce que et ce bracelet n'était pas assuré et n'avait pas de
sécurité.
Ah ouais. La tâche de sécurité.
Vous vous êtes endetté pour rembourser ce bracelet?
Oui,
Parce que 100 000
ce premier César m'a coûté très cher. Oh
non. Mais je la connaissais pas du tout cette histoire, c'est totalement dingue. Totalement dingue.
Ouais. Et ça, on parlait tout à l'heure de délit de faciès.
Mais c'est ça, c'est le même.
Mais là, c'est un délit social. C'est social, en fait. Ouais.
Ah, tout à fait, oui, oui. Mais j'en ai un peu vécu des.
Et est-ce qu'on se. Ouais. Tout à l'heure, Simon disait, bon, c'est des conditions extraordinaires et exceptionnelles, tristes pour le Bataclan. C'est se dire, bon, il faut être soumis à ce contrôle d'identité à ce moment-là parce que les circonstances font que le doute plane. Vous, comment vous l'avez vécu, ça, intimement?
Eh bien, à ce moment-là, j'étais simplement docile, quoi. Je me suis dit, oui. Et puis, comme c'est mon agent qui m'avait demandé de le faire, et c'était vraiment quelqu'un de formidable, hein. À part ce conseil. Eh bien, je n'ai pas réfléchi. Et puis, j'étais très jeune, donc voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire.
Hein. Aujourd'hui, vous le referiez?
Ah non, je ne le referais pas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des assurances pour.
Elle met une sécurité maintenant sur les.
Mais vous savez, j'ai refusé qu'on prête des bijoux, effectivement.
Ah oui, j'imagine, ça vaccine un
mais
peu.
Mais le sentiment d'injustice qu'on a dans ces cas-là, aussi bien quand on est contrôlé 7 fois par jour que quand on est accusé de vol alors qu'on ne l'a pas fait, on a envie de hurler, pas de dire je vais faire un crédit pour rembourser 100 000 francs que l'on n'a pas.
Eh bien, j'ai pas eu envie de hurler à ce moment-là. Je savais pas comment fonctionnait le système. C'était un premier film. Je savais même pas ce que c'était les Césars, pour tout vous dire. Donc, donc voilà, j'étais naïve. J'étais. Ça s'est passé comme ça. Tant pis.
Pas très bien conseillé, pardon, sur ce coup-là. Hein,
oui, sur ce coup-là, pas terrible, mon cher Serge. Mais autant pour le reste, parce que je peux vous dire que. Il m'a quand même conseillé sur une chose importante, c'était l'important, c'est de durer. Mmh. Et à 52 ans, eh bien, je suis encore là, et grâce à lui, je crois. Et bien sûr, grâce à d'autres agents qui m'ont accompagné par la suite, mais les débuts de carrière, c'est quand même ce qui vous fait durer ou pas.
Mais si je peux me permettre, c'est quelqu'un
qui m'a fait faire les bons choix.
Oui, dans sa logique de dire l'important c'est de durer, c'était aussi préserve ton image, pas de vague, donc rembourse le bracelet, même si c'est pas toi qui
l'a. Non, c'était pas ça du tout. C'était fais les bons choix.
Non, mais j'ai compris, mais le problème du remboursement du bracelet, c'était aussi pour ne pas être accusé, rejeté.
Oui, c'était pour pas casser l'image de la banlieusarde qui venait de Grigny, en plus Grigny. Quand il y a des faits divers ou tout ce qu'il y a de plus dramatique, c'est à Grigny que ça se passe. Donc moi, je venais de là. Donc effectivement, l'image était un peu lourde à porter. Mmh.
Simon Acarian, vous écoutiez dans ces années-là Screaming Jay Hawkins. Mmh. I put a spell on you. C'est tellement sexy, ça. Because you're mine. Et là, quelles images avez-vous en entendant ça?
Je suis bourré.
Ah non.
Enfin, je suis en train de boire avec des potes. Non, mais on était, c'est-à-dire qu'on commençait.
On avait dit avec modération. Okay.
Je suis en train de boire, je suis vers l'Olympia, à côté, parce qu'il est passé à l'Olympia, Screaming Jay Hawkins, et on était au café d'à côté, et on n'avait pas les places, on ne pouvait pas rentrer. Donc on est resté entre potes et copines, et puis on a bu. Et après, on est allé dans l'appart d'une copine qui avait un grand appart dans le 17e.
Pour écouter du Screaming Jay Hawkins,
on avait les vinyles et tout. Moi, j'aime cette musique et j'aime ce gars et j'aime cet esprit-là, quoi. Donc, voilà.
Et on parlait tout à l'heure de tendresse, de sororité, d'élan vers l'autre. Il y a le beau aussi. Le beau qui permet tous les possibles, qui unit les gens. On parle d'éléments fédérateurs. Vous, Simon Abkarian, vous avez vu un jour une représentation de Richard II par le Théâtre du Soleil.
Oui.
Et ça a été un événement fondateur pour vous.
Ah, mais c'est une apparition, comme disent les Indiens, c'est le darshan, quoi. C'est quelque chose qui apparaît et qui révèle quelque chose en vous. Enfin, je crois à la beauté.
Comment est-ce que vous arrivez à mettre des mots là-dessus? C'est le plus difficile.
C'est difficile d'en parler parce que c'est physique, c'est chimique, c'est.
Organique, ouais.
C'est ça, c'est organique. On peut pas. En tout cas, c'est plus la même chose après. Il y a un avant, un après. Ça, c'est sûr.
Et ça, c'est un effet qui continue, qui perdure dans votre vie? Où vous êtes à la recherche de ces moments-là. On parlait tout à l'heure de produits stupéfiants, ou en tout cas de ce qui peut rendre les choses encore mieux. Est-ce qu'on est en quête d'un autre frisson?
Je ne sais pas si je suis en quête, mais l'œil s'affûte. Il y a des moments dans le métro où je suis très ému de voir des choses, de voir un couple de gens qui se parlent, qui s'enlacent, qui joue de la musique ou ailleurs, ou un film, ou même une discussion, ou un plat qui est présenté, quand je vois la tentative de faire quelque chose de beau pour l'autre, ça m'émeut. Après, ça peut être dans des choses petites comme dans des choses grandes. Mm-hmm. Mais rencontrer un spectacle qui vous renverse comme ça, c'est une fois tous les 10 ans.
Et vous attachez aux détails dans ces cas-là ?
Beaucoup. Beaucoup, parce que si c'est un cuisinier ou une cuisinière qui présente un plat, par exemple, et je vois que là-dedans, il n'y a que de la tristesse, déjà, vous allez le manger, vous avez 50% de chance d'avoir une indigestion. Il ne faut pas manger de la tristesse. Et ça va, en remontant la chaîne alimentaire, on ne va pas en parler de ça, mais voilà, on rentre là-dedans, quoi. Donc, à un moment donné, je pense que les choses, si elles ne sont pas faites avec passion, avec amour, elles peuvent pas nous atteindre. On les consomme et on les rend par comme on sait.
Ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent. Oui.
Ben ouais. Et voilà. Et c'est aussi connaître les goûts originels des aliments, des choses qui nous sont offertes. Si on ne les connaît pas, ben il faut aller à la découverte de ça, quoi.
En 2006, 2007, 2006, Sandrine Bonner, vous écoutiez John Coltrane. Là, cette musique correspond à quel moment pour vous ?
Elle correspond à l'endroit que j'avais acheté où je m'emmerdais grave.
Ah, c'était alors, où c'était
entre le crédit pour rembourser le bracelet et l'achat d'une maison où on s'emmerde, vous n'êtes pas doué pour les affaires, hein, moi je vais vous dire. Il va falloir prendre ça en main.
C'était où, Sandrine ? C'était où cet endroit ?
C'était à Nogent-sur-Marne. Alors j'avais acheté une grande maison, trop grande, trop bourgeoise. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, j'étais pas seule à l'acheter, hein. On était en couple. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Et voilà, j'étais cantonnée dans un milieu trop bourgeois.
Mm-hmm. Sur les bords de Marne.
Et face au bois de Vincennes.
Ouais, super joli.
C'est super beau, mais j'en pouvais plus de voir les
arbres. Il y avait le bowling à Joinville-le-Pont, c'était vachement bien.
Ah, mais je déteste les bowling, ça me déprime. Oui.
Donc sinon, voilà,
mais
sinon,
j'ai vécu
va.
De. Ah non, mais depuis que j'ai déménagé, c'est formidable.
Et où vous êtes à l'aise ? Qu'est-ce qui vous correspond comme un environnement urbain ? Qu'est-ce qui.
Mais en fait, je suis partie dans ces quartiers-là pour mes enfants, en fait. Parce que je trouvais que Paris, enfin c'était pas tout à fait mon idée d'ailleurs, c'était plutôt l'idée du papa. Enfin j'ai deux enfants avec deux hommes différents et c'est vrai que la première fille, j'habitais au départ boulevard Barbès et avec un petit enfant, c'est vrai que le boulevard Barbès est assez
agité. Ouais.
Agité, ça c'est moins grave, mais il y a pas mal de pollution et voilà. Donc je suis partie
dans la verdure.
Dans la verdure. Et puis, de fil en aiguille, j'ai racheté une autre maison, du coup, toujours dans ces coins-là. Et puis finalement, non, c'est pas ce qui me correspondait. J'attendais que les enfants grandissent. Et en fait, j'aime Paris. Je
la
suis
vie, vous aimez que ça grouille.
Dans l'âme. Ouais. Ouais.
Et en 2006, on vous retrouve avec un documentaire. Elle s'appelle Sabine, consacré à votre sœur qui est autiste. Sa situation à l'époque elle a un lieu de vie adapté, mais ce documentaire, vous le faites aussi pour toutes les familles. On parlait de cette dimension citoyenne pour ce film ce soir. C'est un peu, j'ai la sensation, la même entreprise pour Elle s'appelle Sabine. C'est alerter pouvoirs publics.
Ça, oui, oui, j'ai fait ce film pour alerter les pouvoirs publics. Et ce que je trouve terrible, c'est que Sabine, liée à cette non-prise en charge... Donc elle est restée 5 ans en hôpital, dans plusieurs hôpitaux psychiatriques. Et elle a dû réapprendre tout ce qu'elle connaissait déjà. Et ça, c'est pas normal. Et que ce soit Sabine ou d'autres gens, parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres dans ce cas-là. Et c'était pour parler, non pas de l'autisme, parce que je ne suis pas médecin. Et puis il y a toute forme d'autisme et toute forme de handicap mental. Mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit à la dignité, à la considération et surtout à avoir un lieu digne de vie. Et malheureusement, très souvent, et c'est encore le cas, même si ça bouge un petit peu.
Mais il y a encore du boulot. Ouais.
Il y a encore du boulot.
Clairement.
Et pour l'instant, quand même, la seule alternative, c'est l'hôpital. Et l'hôpital n'est pas un lieu de vie. C'est un lieu qui est censé être un lieu de soins, mais surtout pas de vie.
Simon Abkarian, dans ces années 2007, vous écoutiez Sting. Ça, c'est pour votre vie américaine, justement.
Ouais.
Cette musique-là, elle correspond. Elle a un rapport avec le James Bond ?
Non, parce qu'en fait, moi j'ai vécu aux États-Unis, j'avais pas la green card, donc j'étais un petit peu clando, quoi. Et je trouvais ça assez joli, comme il l'a tourné, lui. Et puis bon, j'adore Sting parce que c'est un chanteur.
Lui, il l'a tourné sur un regard homophobe d'un de ses amis artistes.
Ouais.
Et en disant que qu'il était exclu comme un Anglais perdu à New York. Ouais.
Voilà. Et je trouvais ça une belle manière parce que l'exclusion, c'est l'exclusion, quoi. Et
l'exclusion, quelle que soit la raison. Ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'on est exclu, on se déguise en absent, on se cache, on évite le regard de l'autre, on veut pas, surtout le regard légal, l'autorité qui circule dans les rues ou pas. C'est ça qu'on essaye de, se faufiler à travers ça. Et ça devient une deuxième nature, hélas, et c'est fatigant.
Et on vous retrouve à l'affiche de Casino Royale, Simon Abkarian, en 2007.
Ouais.
Vous incarnez l'un des ennemis de James Bond. Ouais. J'imagine que toute la place de Paris était sur le coup pour passer le casting.
Je sais pas, je crois qu'ils ont passé beaucoup de castings en Espagne, en France, un peu partout. Ouais.
Et c'est vous qui avez été choisi.
Ouais.
Ça vous a fait quoi sur le moment? Parce que tout d'un coup, James Bond...
C'est un rêve de gamin ou pas? D'être dans un James Bond?
Bah, sur le coup, j'ai pas réalisé. Et puis, une fois que j'y étais, c'est une grosse bécane. Hein. C'est pas le meilleur film que j'ai fait dans ma vie au niveau
jeu
et
bah, c'est pas honteux non plus. Hein.
Non. Mais pas ce que jeu, mais surtout... à s'amuser avec ses partenaires, ça rigole pas, quoi. C'est un Spider-Man, quoi.
La grosse machine.
Bah, t'as une assistante qui te suit partout, tu te planques une fois pour lui faire une blague, elle pleure.
I'm gonna lose my job.
La meuf, elle pleure, quoi. Tu fais, excuse-moi, je voulais juste faire une blague. Non, parce que je vais perdre mon travail si tu fais ça, si il t'appelle.
Il y a une telle pression à tous les niveaux.
Ah ouais. Ouais.
La tendresse, pas là-bas, quoi.
Non, pas là-bas, et puis, pour la blague et l'anecdote, on était aux Bahamas, il y a un jeune trentenaire qui s'approche de moi, un petit costard socialiste, et puis il me dit, il travaille dans une banque, il me dit, voulez-vous un compte en banque ici aux Bahamas? J'ai dit, c'est combien pour commencer? Il me fait un demi-million. J'ai dit, bah, va boire une bière à ma santé, et voilà, quoi. Non, mais c'était intéressant, il t'arrive des choses quand t'es dans ce milieu-là,
hors norme. Philippe Duperron nous a rejoint et vous avez été patient. Pardon, Philippe, bonjour et merci d'être à ce micro. Vous serez ce soir dans ce débat après la projection du film ce soir-là et les jours d'après. Je l'ai rappelé, votre fils Thomas était malheureusement ce soir au concert du Bataclan. Vous l'avez perdu et vous avez eu le courage, j'ai pas d'autre terme, de monter cette association, parce que cette association, c'est aussi pour que le nom de Thomas continue d'être prononcé et pour que il y a un travail fait autour de sa disparition. C'est pour lui que vous l'avez fait?
Oh, c'est oui, bien sûr, c'est pour lui, c'est parce qu'il y a toujours une forme d'exemplarité et j'ai toujours essayé d'être exemplaire pour mes enfants et donc il reste présent dans notre vie, dans notre mémoire. Donc c'est pour lui, mais vous savez, l'engagement associatif, c'est pour lui, beaucoup. C'est pour ceux qui ont besoin de nous. Et puis, il y a toujours une forme de narcissisme dans un engagement associatif. Et donc, c'est aussi pour soi-même, pour ce que l'idée qu'on se fait de soi, mais beaucoup pour aider les gens, pour aider et apporter une aide et une assistance.
Alors, le 13, 11, 15, Fraternité, Vérité, l'idée est de faire quoi exactement avec cette association Fraternité et Vérité, les mots sont forts.
Oui, tout à fait, la dénomination porte en elle suffisamment de sens. La fraternité, elle s'est exprimée, comme cela a été dit tout à l'heure et très souvent, elle s'est exprimée spontanément par la population qui est venue aider des personnes qui n'avaient aucune capacité particulière de soigner, se sont quand même lancées dans cette triste aventure. Et puis la fraternité, il fallait qu'elle s'exprime aussi par la chaleur que pouvait représenter le fait pour ces victimes, des victimes, de se regrouper entre elles, de s'apporter...
Faire des groupes de parole,
Alors, les groupes de parole, effectivement, l'association constitue en soi une forme de groupe de parole, même si le groupe de parole a une autre consistance avec une aide psychologique, un soutien psychologique en général. Mais effectivement, il faut que la parole puisse circuler, que les choses soient dites, et cela contribue très souvent et pour beaucoup participe en tout cas à la reconstruction.
Il y a aujourd'hui aucune aide apporter concrètement aux victimes des attentats? On en est où exactement, 4 ans après?
Non, ce serait tout à fait faux de dire qu'il n'y a aucune aide.
Ah, d'accord.
Non, il faut voir les choses de manière positive. Nous sommes d'abord très proches de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes qui a été installée par le président Macron après que fut supprimé, il faut quand même le dire, le secrétariat général à l'aide aux victimes et le secrétariat d'État à l'aide aux victimes, ce que nous avions vivement contesté à l'époque, car nous craignions effectivement que l'aide et l'assistance et l'écoute des victimes s'en ressentent. Très objectivement, ça n'est pas le cas. Nous avons la personne d'Elisabeth Pelletier, déléguée interministérielle, et de toute son équipe, une grande écoute. Nous sommes très proches les uns des autres et de nombreux chantiers sont ouverts et en cours. Quant à l'aide, beaucoup reste à faire, mais il importe aussi, pour voir les choses de manière positive, de souligner que nous sommes en France l'un des pays qui prend le mieux en charge les victimes, que ce soit au plan de l'aide médicale, de l'assistance psychologique, et également, puisqu'on l'abordera sans doute, au plan de l'indemnisation. Donc soyons positifs.
Alors, peut-on en parler dans 5 minutes?
Oui, bien sûr, tout à fait.
Nous avons été un tout petit peu longs, c'est ma faute dans la première partie de cette émission. Si vous avez la possibilité de rester, Philippe, je serais ravi de continuer de vous entendre après les infos de midi. Et Tanguy Pastureau nous a rejoint. Tanguy,
bonjour.
Un peu de légèreté dans ce monde de violence. Vous voulez nous parler des saints, carrément.
Oui, c'est l'un de mes sujets de prédilection. Et avec l'été qui est là, on les voit de nouveau. Hein. Les saints, c'est comme papy et mamie au moment des étrennes, on les croise une fois par an. Mais dans la rue, le terrain de chasse des lourds, porter un décolleté, ça revient à prendre le risque de se faire insulter. Sur Internet, les femmes réagissent.
On en parlera après les infos de midi.
Oh là là, mais pardon.
C'est allé.
Oh, l'ambiance.
La bande originale qui continue. Oui, oui. Ah, bonne ambiance. C'est l'Académie des Vies.
Bonjour.
Daniel Morin. Marina Rollman. Albert Algour. Tanguy Pastureau. Et nos invités, bonjour. Sandrine Bonner. Et Simon Lapierre.
Bravo. Bravo.
Parlons de cette soirée continue, ce soir-là et les jours d'après, un film réalisé par Marion Lenne, porté par Sandrine Bonner et Simon Abkarian autour des attentats du 13 novembre 2015 et surtout de tout le travail de reconstruction et de résilience dont j'aimerais que nous parlions, Philippe Duperron. Je rappelle que vous êtes le papa de Thomas et ça, vous le serez toute votre vie, c'est pour ça que je l'emploie au présent. Thomas ayant été malheureusement victime de ces attentats du Bataclan. Quand vous avez vu ce film, qu'avez-vous ressenti?
Pour être clair, pour moi, le film, c'est une occasion pour les victimes et pour les associations de victimes de s'exprimer sur ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent encore et leur devenir.
De ce côté-là, c'est fidèle.
En tout cas, évidemment, je ne suis pas critique de cinéma,
non,
et je
non,
n'ai pas de regard technique à porter. Ce qu'il me semble, c'est que de fait, il a fallu condenser sur ce film un certain nombre de situations qui se sont en fait étagées dans le temps pour certaines d'entre elles.
Alors, je vais vous poser la question en fonction de ce que j'ai ressenti. Que par exemple, que des personnes cherchent à se retrouver sans se connaître après les attentats. Est-ce que ça, c'est une réalité
oui.
ou pas?
Très clairement, oui. Maintenant, dans quel timing cela s'est-il réalisé? Ça n'est probablement pas ce timing d'une aussi grande rapidité.
Oui.
Mais de fait,
ça
oui,
reste,
bien
ça
sûr,
reste,
il y a,
une fiction,
oui. il y a oui. réellement ce sentiment. Et là, on retrouve l'idée de fraternité. Il y a ce lien qui s'est constitué et qui est d'une nature très particulière entre toutes les personnes qui ont vécu ces attentats, qui ont vécu ces événements. Ce lien d'une sorte de famille, de fraternité.
Voilà, vous me disiez hors antenne qu'il y a une différence entre les associations de victimes et les associations d'aide aux victimes.
Oui, tout à fait. Les associations d'aide aux victimes ont une forme d'infrastructure qui les conduit à apporter une aide aux victimes, à être présente sur les lieux des attentats, voire des accidents collectifs, car souvent les associations d'aide aux victimes englobent non seulement les victimes d'attentats, mais aussi les victimes d'accidents ou de catastrophes. elles ont, ces associations, des infrastructures de psychologues, d'intervenants qui vont être présents sur les lieux. Les associations de victimes sont des associations qui regroupent des victimes entre elles, qui vont se parler, s'aider, se porter assistance, et qui vont également porter la parole des victimes auprès des pouvoirs publics, être les interlocuteurs des pouvoirs publics.
Alors j'ai deux questions à vous poser là-dessus. Quelle est d'abord la définition de victime ? Est-ce que ce sont uniquement les personnes qui étaient directement concernées par l'attentat, ou je pense qu'il y a quand même des victimes qui n'étaient pas à l'attentat, mais qui ont eu des répercussions psychologiques et des échos, entre guillemets, et qui ont été aussi choqués et blessés, et donc sont victimes aussi de l'attentat sans forcément avoir été ou au Bataclan, ou au Stade de France, ou aux terrasses.
La notion, tout à fait, enfin, vous faites tout à fait le distinguo et il est clair, la notion de victime est une notion juridique d'une certaine manière. C'est la reconnaissance d'une qualité, entre guillemets, d'un statut qui va avoir pour corollaire une prise en charge notamment, et une indemnisation. Et donc, c'est les victimes aujourd'hui, le nombre de victimes prises en charge par le fonds de garantie et d'indemnisation, qui est cette institution qui va indemniser les victimes, et de l'ordre de, selon une statistique qui remonte, enfin un nombre qui remonte à novembre 2018, 2625. Mais le nombre de personnes qui ont consulté des services médicaux, psychologiques, et qui en général se sont tournées vers la médecine, est de l'ordre de 5000 selon le chiffre que nous a donné hier le professeur Bobet qui était avec nous sur le plateau.
Donc on est du simple au double, quoi.
On est à peu près du simple au double.
Et vous attendez quoi aujourd'hui des pouvoirs publics ? Parce que votre association se tourne vers les pouvoirs publics. Alors, et les tient éveillés, j'ai envie de dire.
Nous sommes quittés effectivement sur le verre à moitié plein, que j'ai souligné et qu'il est important de souligner, mais le verre peut être considéré à moitié vide aussi, sur des problématiques qui sont pour beaucoup liées à l'indemnisation, notamment en ce que les procédures d'expertise peuvent être jugées trop lentes, les comportements de certains experts peuvent être jugés inappropriés, et donc c'est ce dont nous nous faisons aussi l'écho auprès du fonds de garantie et de la délégation interministérielle qui est notre, je dirais, notre premier interlocuteur pour toutes ces matières, évidemment.
Leïla. Dans ces circonstances, on parle d'indemnisation. Comment est-ce qu'on peut juger la hauteur d'une indemnisation ? Dans le film, par exemple, il est question du nombre d'heures passées dans les lieux du Bataclan, dans la fosse, et en fonction du nombre d'heures, il y a
une... C'est en fait.
Alors c'est là où il y a d'ailleurs un petit anachronisme qu'on peut sans doute excuser eu égard à la fiction et à la volonté de regrouper dans cette fiction l'ensemble de situations et d'informations, puisqu'il est question là du préjudice d'angoisse, de mort imminente, effectivement, qui est jugé indemnisable depuis une délibération prise par le conseil d'administration du fonds de garantie en septembre 2017. Et de fait, le fonds de garantie a ensuite fixé des critères qui sont peu lisibles et peu qu'on a un petit peu de mal à se procurer. Pourquoi le préjudice d'angoisse de mort imminente a été jugé indemnisable à hauteur de 5000 euros jusqu'à dans une fourchette de 5000 à 30000 euros. Or, il s'est révélé que les offres qui étaient faites étaient très souvent, en tout cas celles que j'ai vues pour ma part, et celles que nous avons vues autour de nous, étaient des offres à minima. C'était toujours le minimum qui était offert. Et ensuite, lorsque l'on disait « mais oui, mais pouvez-vous nous donner quelques critères ?», on voyait quelquefois le quantum augmenter. Donc s'il y a là une forme de jeu d'enchères ou de faire une offre pour voir, on est dans un poker un peu extrêmement pénible pour les victimes, pour les parents,
pour ceux
qui ont vécu l'événement.
On voit bien aussi que dès l'instant où il y a une victime, et je pense à Thomas, évidemment on se dit il a été victime de cet attentat, mais sont victimes au même titre que lui toutes les personnes qui l'aiment et qui continueront de l'aimer autour de lui, parce qu'il y a des répercussions psychologiques qui ne sont même pas quantifiables, c'est impossible.
Absolument.
Et on peut pas dire voilà ce que ça vaut, ce genre de drame ou de fêlure.
C'est vrai, c'est aussi, évidemment, la vie n'a pas de prix, et surtout la vie d'un enfant, elle n'a pas de prix, mais le droit français est ainsi fait, et d'une certaine manière, c'est plutôt positif, que toute forme de préjudice doit se traduire par une indemnisation qui est quant à elle, forcément, une indemnisation pécuniaire. Et donc, reste ensuite la détermination du quantum, la discussion du quantum, et c'est là où il peut y avoir évidemment divergence de vue entre la victime et l'offre qui est faite par le fonds de garantie. Et dans ce cas-là, le seul recours ultime, eh bien, c'est le juge.
Merci pour vos explications, pour votre courage et pour ce que vous faites justement pour les victimes autour de cet attentat. Je rappelle le nom de votre association, 13-11-15, 13... Oui, Fraternité Liberté, je veux juste préciser.
Et Vérité.
Et vérité, pardon. Je veux juste rappeler que 11 était en toutes lettres. Pour ceux qui cherchent sur Internet à vous contacter, 13 11 15, Fraternité et Vérité. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir donné la parole.
C'est avec plaisir et on vous suivra ce soir. Vous faites partie des intervenants lors du débat mené par Julien Bugier sur France 2. Voici Tanguy Pastureau sur Internet. Il fait chaud, Tanguy, et on suffoque en France.
Oui, enfin, la France. Les pauvres, hein, parce que les riches passent de leur appart climatisé à leur voiture climatisée afin de se rendre jusqu'à leur bureau climatisé. Ce sont des gens qui ont plutôt froid en ce moment. Hein, ils ont sorti les vêtements d'hiver, la Croix-Rouge à Neuilly distribue des couvertures de survie. Mais les autres, c'est vrai, ont chaud. Et la chaleur, c'est jamais comme dans les clips de R&B. Beyoncé, quand elle sue, de petites perles de sueur lui coûtent délicatement entre les fesses. Quelle secoue pour s'en débarrasser, aspergeant tout sur Jay-Z. Le principe est le même qu'une laitue qu'on égoutte. Mais nous qui ne sommes pas des déesses du R&B, même si Albert Algo avait le profil, cette chaudasse, mais il a préféré les mots. Et ben quand on sue, ça forme juste des ronds écœurants sur nos chemises, et pour peu qu'on soit gratté la face à 7 ans quand on a eu la varicelle, on ressemble encore plus à une tranche d'émental. Bref, il fait chaud, à part en Bretagne, où on est sur un petit 22 degrés avec ciel voilé. En 2050, quand l'Île-de-France et l'Alsace seront devenus des déserts, tout le monde viendra y habiter, Pontivy deviendra la première ville de France, la présidente Nolwenn Leroy aura installé l'Élysée à Brest afin de se rapprocher du gouvernement de Christophe mieux sec. Donc quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on met un peu moins de fringues, parce qu'à 37 degrés, chaque liquette supplémentaire provoque la même souffrance que si on s'épilait les pattes au papier de verre. Ce que seule Valérie Damidot a fait à un moment, parce qu'elle en avait tout un stock. Les femmes notamment peuvent mettre un petit haut décolleté. Bernard-Henri Lévy aussi est en décolleté, mais ça rend pas pareil. Le décolleté, c'est super, mais je ne suis pas objectif car j'aime regarder des seins. Ainsi, je dois choisir entre voir une comédie française au cinéma et des seins, par exemple, je choisis les seins. Vous montrer Kev Adams ses dessins, j'aurais assez peu envie de tripoter Kev Adams. Hein. Ou alors, c'est que j'ai pris de la drogue et mon champ des possibles s'est réellement élargi.
Mais après, s'il vient tous ici, avec la drogue, là, il y en a marre.
Après, s'il vient ici pour la promo, bon, on sera gênés tous les deux. Donc, c'est à ne pas faire. Vous connaissez l'expression vulgaire no job in job, à laquelle on peut ajouter ici no kiki chez Nagui. Donc, le décolleté l'été quand il fait chaud, et même quand il ne fait pas chaud, car je le rappelle, le corps des femmes leur appartient. C'est la différence qu'ils ont avec le vélib qu'on loue seulement. En 2019, ça devrait être aussi banal qu'une voiture piégée dans la banlieue de Damas. Mais pas du tout. Et ce, à cause de certains hommes. Sur Internet, alors il y a des milliers de témoignages de filles, tous dans le même sens. Le harcèlement de rue a pris des proportions délirantes. S'il devient discipline olympique, en 2024, on rase toutes les médailles. Tout est parti d'une jeune femme, Céline, qui expliquait de sortie, bon, sans sa doudoune. Hein, il faisait 44 degrés ressenti. Elle s'est dit, allez hop, je tente une balade sans me foutre ma couette de lit sur les épaules. Là, un homme lui dit, c'est un décolleté de sale pute. Hein, le décolleté, c'est comme le foot. Les mecs ont rapidement un avis dessus. 60 millions de sélectionneurs, on est au moins 35 millions de stylistes. Céline rentre chez elle après avoir été insultée, hein, comme le sont plein de femmes au quotidien. Moi, si je sors totalement nue, on me traitera pas de vieux chaudard. Non, au pire, les gens riront. Hein. Et elle poste sur le net une photo de son décolleté avec écrit « Mec, mes seins et moi, on t'emmerde bien fort ».
Ce qui est évidemment une figure de style.
Oui, Nagui, puisque les seins ne parlent pas. Hein. Et heureusement, parce que quand on est en couple, le matin, il faudrait saluer la personne plus ses seins. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ça prendrait un temps fou. Hein, donc autant vivre à 30 dans une secte. Maintenant qu'il n'y a plus Charles Manson, le milieu des sexes est un peu assaini. Avec l'homme augmenté bionique, ben ça viendra. Les parties de notre corps nous parleront. Hein. Les seins diront c'est étame ça, il faut prendre plus large parce qu'on est serré. Bon, je fais la voix que j'imagine que les seins auront. Hein. Mais si ça se trouve, ils auront la tessiture de Gérard Darmon. On aura des lèvres qui nous diront mais du dermophile indien, bébé. Et le sexe de Rocco Siffredi s'exclamera stop. Ce soir, tu dors, mais moi aussi, à un moment, j'ai le droit à la retraite. Hein. Mais ce n'est pas encore le cas. Nos corps ne parlent pas.
C'est pour ça que les hommes ne comprennent pas qu'un décolleté, ce n'est pas un cadeau pour eux. Tu as Noël, ton anniversaire, et là, on t'offre une Smartbox, pas des seins. Ce n'est pas un hasard. Hein, une femme n'existe pas uniquement pour provoquer chez toi quelque chose. C'est un être qui vit pour lui-même. Et c'est pas parce que tu te gaffes de porno H24 que c'est pareil dans la réalité. Regarde le Quick and Toast en photo. Il ressemble vraiment à celui qu'on te met dans la boîte? Non. Regarde le président en campagne. Il ressemble vraiment à celui que t'as une fois élu? Non. Les femmes en soutien à Céline, alors se sont mises à poster en masse des photos de leur décolleté avec le hashtag je kiffe mon décolleté. On est devenu tellement bête ou intégriste ou pudique que maintenant il faut se battre pour porter un décolleté. Non mais moi je vais vous dire, je suis d'une génération de garçons qui à la plage ont été entourés de femmes seins nus. Ouais. Les étés 87 à 90 furent à cet égard particulièrement remplis. J'ai dû me faire 400 torticolis, il a fallu faire venir un marabout d'Inde orientale pour me débloquer. Eh ben ça va, hein, j'ai pas explosé de désir et pas une fois j'ai pensé que j'étais cerné de prostituée. Non, on avait des femmes libres qui faisaient ce qu'elles veulent et des hommes qui savaient se tenir, la base. Donc moi aussi je kiffe vos décolletés, mesdemoiselles, mesdames, Bernard-Henri Lévy. Passez un bel été à vivre strictement comme vous le souhaitez. Merci.
Merci. La bande originale, la vie sur France Inter. Ce soir, Sandrine Bonner et Simon Abkarian, cette histoire évidemment autour des attentats, mais aussi c'est l'histoire de vos vies dans ce film. C'est une fiction, une histoire d'amour et de vos vies aussi personnelles, puisque vous êtes mariée avec enfant, Simon Abkarian, dans ce film. Et quant à vous, Sandrine, le papa n'est plus là, il est décédé, me semble-t-il, si
oui,
je n'ai pas de mémoire.
Fait, oui.
Et
oui.
Vous avez des rapports, on va dire, un tout petit peu tendus avec votre fille qui est urgentiste et vous prenez très très mal d'ailleurs le fait qu'elle vive avec, qu'elle envoie un texto, qu'elle vive avec une excitation de puce comme ça, ces attentats en disant je m'éclate, il y a plein de boulot, c'est génial. Et là vous le vivez très très mal et commence à naître des tensions entre vous.
Oui, parce que elle, effectivement, sa passion c'est la médecine et c'est l'urgence de la médecine. Donc plus il y a de travail, plus elle est contente. Mais effectivement. Le terme « je m'éclate » est complètement déplacé. Mais au fur et à mesure de tous ces gens qu'elle a à soigner, et puis ses relations avec sa mère, et aussi sa relation, parce qu'elle a aussi un problème avec les hommes, hein, elle est très dure avec un jeune garçon qui travaille avec elle, tout ça va faire écho en elle malgré tout, et que c'est justement ces événements du Bataclan, au fur et à mesure, vont avoir un impact très conséquent et ça va lui permettre de comprendre et de ne pas fuir ses émotions.
C'est pour ça que ça chamboule tout dans les vies de tout le monde, à tous les niveaux. C'est, y compris d'ailleurs, vous êtes directrice d'une crèche, les parents, dans la manière dont ils parlent, dont ils s'inquiètent, les histoires de code d'accès, de sécurité. Il y a eu un avant et un après 13 novembre 2015, clairement.
Mais c'est exactement ça. Je pense qu'on est plus pareil. On est dans la peur, et tu le disais très bien tout à l'heure, Simon, c'est que on vit maintenant dans des voilà le moindre bagage abandonné,
on est suspect,
voilà, on est dans une paranoïa et c'est terrible.
Et l'image que de votre personnage Simon, c'est l'intégration réussie, c'est l'amoureux de la langue française, c'est l'amoureux de la chanson française, c'est le gentleman, c'est l'homme élégant, posé, très
rassurant.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, t'es tombée amoureuse toi, c'est
mais
ça.
Moi, j'adore Simon Abkarian.
Oui, on parlait du personnage. Calme-toi.
Oui,
attention.
Mais oui, mais dans tous ses rôles.
Oui, enfin de lui quoi.
Non, non. Mais il a déjà joué. De salaud et de méchant.
Oui, hein. Mais quand même, il est rassurant. Hein. On n'a pas cherché.
Non, mais vous, alors que.
Moi aussi, je suis amoureuse de lui.
Voilà, très bien.
Dis, battle.
Alors que. J'attends. Alors que vous, vous pourriez dire, moi, ma vie est totalement équilibrée, femme, enfant, tout va bien. Je n'ai aucune raison que ma vie soit chamboulée, ouais, ou retournée. Vous êtes équilibré,
tout est équilibré, sauf que il vit
employé de parking qui
sous terre.
Oui, mais qui est le patron du parking.
Bien sûr, mais
il a réussi.
Ouais, bien sûr, il a réussi socialement, il a absolument réussi. Et tout d'un coup, en rencontrant le personnage de Sandrine, il va se rendre compte que il a quand même quelque part raté sa vie. Il a quand même quelque part raté sa vie. C'est-à-dire qu'il s'est plié aux lois qui sont celles d'où il vient. C'est-à-dire qu'on te marie, ça arrive encore. Maintenant, je connais des jeunes Afghans qui sont au Théâtre du Soleil. à qui on marie des filles, et si la loterie c'est pas la bonne, c'est malheureux.
C'est
quoi.
Comme ça. Ouais.
Donc c'est pas qu'il est malheureux avec cette femme-là, c'est que tout d'un coup il rencontre une femme et ça ouvre tout en lui. Ça ouvre ce qui était encore verrouillé. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui vont se déverrouiller pour certains hommes quand ils ont rencontré vraiment
l'amour.
Les femmes, l'amour, ouais. Ou pas par les femmes ou par les hommes, s'ils aiment les hommes, mais là c'est quelque chose de fort, quoi. Il peut pas le nier. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est que c'est ce moment horrible qui arrive le 13 novembre. C'est un révélateur. La guerre est un révélateur. La guerre révèle les belles âmes comme les plus grands des salauds, quoi. Donc là, on se révèle.
Vous en parlez à l'instant. Le plus grand des salauds, le voici, c'est Daniel Morat.
Bon, vous avez entendu l'horrible nouvelle. Pamela Anderson a quitté Adil Rami.
Oh, m'en parle pas.
Pamela a trahi. Pamela a trompé. Pamela a bafoué. Et pourtant...
Pamela a libéré.
Ah non, pas encore. Pamela. Et pourtant, l'histoire était belle. Elle, icône hypersexuée des années 90, connue pour savoir mieux que quiconque courir. Oui, courir au ralenti sur la plage de Malibu en état d'alerte. Elle courait en ligne droite, avec les seins qui allaient à droite, puis à gauche, comme un balancier satanique qui donnait un rythme érotique à nos cœurs d'adolescents fiévreux et qui à chaque foulée faisait éclater d'amour un de nos furoncles dans un jet de pu libérateur.
Ça va pas, non.
Lui, Adil, footballeur viril et charmant à la fois, un corps d'Apollon, malheureusement au service d'une grande naïveté, pour être poli. Adil Rami, il est beau, mais il n'a pas inventé le rond-point carré. Quand tu le regardes, le Adil, il y a comme une petite musique qui l'accompagne.
On m'appelle...
Non, t'as pas le droit.
Mais c'est en toute amitié que
t'as
je dis
pas
ça.
Le droit, t'as pas
oui,
droit.
C'est ça, Adil. Adil et Pamela s'étaient trouvés, mais en fait, autre chose le caractérisait, le Adil. Oui, il était amoureux de Pamela, mais il lui en fallait plus. Adil, il est chaud. Adil, il est brûlant comme un panini quatre fromages. Il lui faut de la meuf. Il faut qu'il s'accouple souvent, pour ne pas dire tout le temps. C'est pas un slip qu'il a, Adil, c'est une cocotte minute. Alors, il chope à tout va. Et cette semaine, patatras. Pamela apprend les infidélités d'Adil. Elle le quitte. Le couple parfait se brise. Blanche-Neige a largué Simplet. Alors, bien sûr, je ne jette pas la pierre à ce pauvre Adil. Non, c'est vrai, qui autour de cette table n'a jamais trompé son conjoint? Je le demande.
Moi.
Oui, non, gardez vos mains bien en bas. Marina, bon, on en a parlé. Elle, c'est pas pareil, c'est en accord avec son mari, ça compte pas. Nagui. Bon, ben, je crois que c'est hyper clair.
C'est
quiconque a croisé un jour le regard de Nagui, c'est parfaitement qu'un satyre sommeille en lui. Encore un satyre qui a le sommeil très très léger. Leïla, bon, comme elle me le disait il y a 6 mois, à l'occasion des vacances de Noël, au réveillon par tous des Balkany. Oh, et puis fuck la monogamie, faut profiter de la vie. Non, tout le monde a un jour ou l'autre mis un petit coup de canif dans le contrat, petit coup de canif ou grand coup de hache, peu importe. Hein. Notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, Chris Love, heureux en couple, eh ben, ça l'a pas empêché de rouler des pelles à des collègues en boîte.
Ça
ici à Radio France, il n'est pas rare qu'à l'occasion de fêtes, il y ait des dérapages. Le nombre de fois je me suis retrouvé à embrasser gloutonnement Hélène, notre réalisatrice. Et alors? Le nombre de fois où j'ai fait l'amour avec Nicolas Demorand? Et alors? Le nombre de fois où Nagui a été surpris déguisé en Saddam Hussein en train de fouetter un pauvre collègue attaché tout nu au bureau? Pauvre collègue dont je tairai le nom par pudeur, mais aussi par respect pour l'ensemble de la famille Pastureau. Bref! Nagui le fouettait, il aimait ça. Et alors? Mais oui, tout ça c'est la vie, ma pauvre Pamela, c'est comme ça. Oh là là, en tout français, sommeil, un petit, voire un gros vicelard. Et encore, tu t'en tires bien, tu aurais pu tomber sur un gros pervers à l'hygiène douteuse, style Fabrice Drouel. Faut savoir que le titre de son émission, il a eu l'idée en regardant un jour le résultat de ses analyses sanguines. Affaire sensible. Bon allez, bon courage Pamela.
À merci Daniel Morat.
La bande originale avec Nagui.
Merci Sandrine Bonner, merci Simon Acarion d'avoir trouvé le temps de venir nous parler
avec
de ce
plaisir.
Film ce soir sur France 2, ce soir-là et les jours d'après avec le débat qui suivra autour de ces attentats de novembre 2015 et surtout de la résilience et de la reconstruction des victimes. À très bientôt, j'espère à ce micro passer un bel été tous les deux. Ce sont les carnets de campagne. Demain, Béatrice Dalle sera notre invitée. Pardon pour ce retard.
Oh, je t'en prie, malgré la gravité du sujet, je vous ai trouvé l'esprit débonnaire.
Gentil, merci. Bonne émission.
On a les cheveux en quatre, hein, c'est comme ça.